les quatre saisons.
La politique est un cycle.
Il ne faut pas faire n'importe quoi pour le symbole.
Elle est faite d'orages et d'éclaircies.
Et que le soleil brille pour tous.
Un éternel recommencement.
Mais c'est pas parce qu'il y a des tensions qu'il y a une crise de gouvernement.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Votre podcast politique passe en mode été.
Avec cette fois Thomas Gadisseux.
Salut à tous.
On vous a préparé 4 entretiens.
Avec 4 personnalités.
Au rythme des 4 saisons, bien évidemment.
Les 4 saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein?
Les 4 saisons d'Ibrahim Ouassari.
C'est l'histoire d'un homme qui bouscule notre notion du succès.
Même si j'ai pas de diplôme, c'est possible.
L'école, c'était pas son truc.
Je m'appelle Ibrahim Ouassari, j'ai arrêté l'école à 13 ans.
Mais l'autodidacte, le self-made man à la belge, a transformé ses échecs en success story.
J'ai ouvert 4 entreprises en informatique, j'ai une quinzaine d'employés, ça marche très bien pour moi.
Enfant des années 80, Ibrahim Ouassari a grandi sur la place communale de Molenbeek. À l'heure où la Belgique découvre le web, il en fait son terrain de jeu, apprend à jongler avec les codes et s'adapte peu à peu à l'écosystème des startups. Mais il veut aussi tendre la main à d'autres jeunes qui se cherchent.
Dans des quartiers comme Molenbeek, Schaarbeek, on a vraiment cette ressource humaine qui est disponible.
Ibrahim Ouassari crée Molengeek. Le projet attire l'attention d'Alexander De Croo en 2016.
C'est un projet extraordinaire.
Reçoit le soutien financier de Google.
Ce n'est pas tous les jours que l'un des grands patrons de Google débarque à Molenbeek.
Et s'exporte enfin à l'étranger.
Des entrepreneurs italiens qui ont beaucoup de mal à recruter en Italie.
Le gars de Molenbeek qui a passé son adolescence assis sur le pas d'une porte.
Et le voici dans le conseil d'administration de Proximus.
Siège désormais au conseil d'administration de Proximus.
Pendant 4 ans, il sera l'un des représentants du gouvernement.
Proposé à ce poste par le MR.
Ce Bruxellois et ses idées ont fait un sacré bout de chemin.
Si on regarde sur Google Maps, entre la place communale de Molenbeek et les tours de Proximus, il n'y a qu'un peu plus d'un kilomètre et un canal à traverser. Alors c'est peut-être un petit trajet pour Ibrahim Ouassari, mais c'est sans doute un bond géant pour la diversité.
Bonjour Ibrahim Ouassari.
Bonjour Thomas.
Alors avec quelle saison on commence? Quelle est votre saison préférée, tout simplement?
L'été.
L'été, les réussites, les success stories, les pauses, le rêve aussi. On va commencer par cette annonce. Vous avez fait votre entrée cette année au conseil d'administration de Proximus. Une entrée qui a fait beaucoup de bruit. Une entrée via le quota MR. On parlera un peu de politique d'ailleurs après. Mais qu'allez-vous faire de ce poste, tout simplement?
Moi, c'est pour moi, au-delà même du symbole que ça représente par rapport à qui je suis, d'où je viens et aussi le parcours académique chaotique que j'ai eu. Au-delà de ça, pour moi, il est ultra important de... Cette place-là est quelque chose d'important pour moi car le digital a bouleversé ma vie et ça va me permettre vraiment de pouvoir amener une autre vision et un autre prisme à ce CA qui est de qualité, mais où il manque un peu de diversité en termes de background.
Et selon vous, de quoi vous êtes le symbole ?
Je suis le symbole pour beaucoup de personnes, en tout cas pour beaucoup de jeunes de quartier qui ont peut-être raté leurs études ou maintenant ils peuvent se projeter dans un avenir quand même qui est un avenir de réussite même si le système académique ne leur convient pas. Je suis aussi un symbole par rapport à mes origines où mon père est du Maroc, donc une personne d'origine marocaine se trouve au CA d'une entreprise
du Belvin.
Ça c'est un message fort. Et je suis aussi un symbole de changement de mentalité par rapport, là on pourra revenir par rapport au MR à Georges Boucher, mais de bouleverser les codes comme ça et de proposer mon nom.
Justement, parlons-en, vous avez été nommé via le quota MR, quota politique. Vous vous sentez lié politiquement au parti ?
Non, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui a été défini avec Georges-Louis Boucher dès le départ, où j'ai une totale indépendance par rapport à mes idées. Je ne suis pas lié au parti. Lui, c'est vraiment... mes compétences et ma vision qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il m'a mis dans ce CA.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment de décider? Est-ce qu'il y a eu de l'hésitation de passer de l'autre côté du canal? Parce que l'image est forte aussi, Molenbeek se situe d'un côté du canal et on voit les deux tours à Bruxelles de l'autre côté, les tours Proximus.
On est à 300 mètres. On est à 300
et pourtant, il y avait des mondes qui séparaient. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là?
À ce moment-là, quand on m'a proposé le poste, je me suis d'abord renseigné sur à quoi ça consistait exactement. Et puis, à partir du moment où on en a discuté avec Georges Boucher et que c'était très clair par rapport à mon indépendance politique, j'ai pas eu trop le choix, en fait. J'ai pas eu trop le choix que de l'accepter, parce qu'à partir du moment où je refusais une telle opportunité, je pouvais pas me plaindre par la suite que les CA du Belvin...
J'étais un peu au pied du mur, en fait. Un peu coincé, clairement, quand même.
Clairement, parce que je pouvais plus dire qu'il manque de diversité, il manque de background différents. À partir du moment où on me dit, ben, monte, vas-y, et essaye de faire en sorte que les choses bougent.
Il y a des gros tickets aussi, un salaire à la clé. Est-ce qu'il y a une peur de changer de monde, quand on accepte une telle invitation?
Moi, ce qui me drive, ce qui me donne envie de bouger, ce qui me donne envie de bosser, ce qui me donne envie d'impliquer, c'est vraiment pas le salaire. Je gagnais très très bien ma vie avant d'avoir fondé Molengeek. J'étais consultant en informatique, je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'actuellement. Mais ce qui me donne envie de vraiment bouger, c'est pas une question salariale, c'est vraiment essayer de bouger les lignes, essayer d'amener à l'impact social. Donc non, je pense pas que je vais changer. Et je pense que les gens ont très bien vu que je continue à garder mes t-shirts et mes hoodies. Et je vais continuer à garder ma mentalité.
On vous a reproché quand même d'avoir été nommé via un parti politique. Il y a eu des critiques quand même un peu.
Bah, clairement, sur Twitter, il y aura toujours des critiques. Mais vis-à-vis de mes proches et de mes proches collaborateurs, non, aucune. Vis-à-vis de ma famille aussi, j'ai eu, au contraire, j'ai eu même des félicitations de partis politiques qui ne sont pas du MR, d'hommes politiques qui ne sont pas du MR, qui m'ont félicité. Le premier à m'avoir félicité, c'est Paul Magnette. Donc, c'est clairement. Et je trouve que ça me rassure aussi par rapport au fait que je fasse partie de ce board.
Je suis le symbole de changement de mentalité.
Alors, on part vers quelle saison du coup? On fait chronologique de l'été, on passe à l'automne.
Ouais.
Le déclin, les changements, les porticlaques, les tensions. On va parler de la pandémie quand même, qui a été un gros moment de tension durant cette année et qui le sera peut-être d'ailleurs encore dans les prochains mois. Comment vous avez vécu toutes ces mesures strictes, ce confinement aussi, à Bruxelles?
C'était vraiment très frustrant. Donc il y a eu des mesures, il y a eu des conséquences à ces mesures-là. Il y a eu des personnes qui n'ont pas été prises en compte quand on a mis en place ces mesures-là. Il y a eu des impositions de mesures sans réfléchir à ce qu'elles sont adaptées à tous. Et donc, quand on passe 100% des écoles en e-learning, oui, il y a certains quartiers où les jeunes n'ont pas d'ordinateur à la maison. Oui, quand on demande de rester confiné chez soi et qu'il y a dans certains quartiers, les jeunes ne peuvent pas rester confinés chez eux parce qu'ils sont 7 dans un appart de 50 mètres carrés. Oui, c'est problématique. Donc ça, c'est des réalités, c'est des faits. Et ça, ces personnes-là n'en sont pas responsables. C'est la société qui a été comme ça. C'est la société qui a mis les choses en place depuis toujours. Donc, à partir du moment où on prend ses responsabilités, on peut critiquer. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai aucun problème avec la critique, mais à partir du moment où on cherche la réelle raison, qu'on vient de me dire que c'est culturel, le fait qu'on ne respecte pas les règles, ça c'est un problème pour moi.
Et pourtant c'est le cas?
Pas du tout.
Non, mais ça a été le cas dans le chef des autorités?
Ah, clairement. Moi j'ai été invité dans des débats pour expliquer pourquoi les personnes de quartier ou d'origine étrangère ne respectaient pas les règles. Et donc j'ai dû leur expliquer qu'ils n'avaient pas des villas quatre façades avec jardin.
Au printemps 2020, vous, avec votre association Molengeek, mobilisé les gens pour fournir tout simplement des ordinateurs. En un an et demi, est-ce que justement cette mentalité a évolué selon vous?
Je pense qu'il y a eu des vérités qui ont explosé au visage de certains. Et donc, oui, c'est vrai, on a fait un appel aux dons. On a distribué plus de 2500 ordinateurs à des jeunes qui n'avaient pas d'Internet. Et le problème, c'est que j'ai peur que ça se tasse parce qu'on revient un peu à une vie normale. Et j'ai peur qu'on oublie et j'ai peur qu'on se dise qu'on revienne. J'ai vraiment peur qu'on revienne en 2019.
Vous, Ibrahim Ouassari, vous avez perdu votre père durant cette pandémie, pas du Covid, et vous me disiez que vous aviez vécu ça comme une trahison. Pourquoi?
J'ai vécu ça comme une trahison parce que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour respecter les règles. J'ai pris les distances avec mon père, j'ai fait en sorte qu'il soit safe, et ça ne l'a pas empêché de mourir. Et moi, ça m'a enlevé les derniers jours de la vie de mon père. Ça m'a mal éloigné de lui parce que je n'ai pas pu le prendre dans mes bras. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas pris dans mes bras. Et ça, c'est quelque chose de très impactant pour moi. Je me suis senti trahi parce qu'on a géré ça d'une manière. On a essayé de faire des règles de base pour tout le monde. Et on a oublié qu'il n'y avait pas que le Covid et qu'il y avait aussi des morts naturelles. Et donc, ça m'a énormément frustré. J'étais très, 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 très proche de mon père. Et ces derniers mois où j'étais loin de lui, où j'ai gardé mes distances sociales, ça a été très dur. Et le fait que je ne puisse plus le prendre dans mes bras, et qu'il puisse plus me prendre dans ses bras, ça a été, moi je l'ai ressenti vraiment comme une trahison.
Ce deuil à distance, cette gestion de toutes ces émotions, ça a nourri aussi beaucoup de colère en fait vis-à-vis des mesures. Ça a été le cas dans votre chef, chez vous? Vous avez rencontré ça à un moment donné, de dire je me sens trahi, donc je ne veux plus respecter, ou en tout cas je suis en colère sur ce qu'on me dit de faire.
Je suis en colère sur ce qu'on me dit de faire, mais par contre je continuerai à respecter par souci des autres, mais je suis très en colère qu'on ne prenne pas en considération certaines personnes. C'est mon père que j'ai perdu, j'en ai qu'un, et je ne peux pas dire c'est pas grave, le prochain que je perds, je ferai ça mieux, non.
Certains membres de la communauté musulmane souhaitent être enterrés dans leur pays d'origine. Ça aussi, ça a été compliqué durant la pandémie. Ça n'a pas été possible pour beaucoup. Et ça a fait évoluer certaines mentalités, justement, sur ce retour au pays pour ces rites funéraires.
Ça a fait évoluer énormément de mentalités parce qu'on a été obligés d'enterrer certains de nos proches ici en Belgique. Et ça nous a permis de voir tous les avantages que ça avait d'enterrer nos proches dans notre pays, qui est la Belgique, à Schaerbeek ou autre. Et ce qui me fait croire que bientôt, on aura une problématique de manque de place dans les cimetières multiconfessionnels, que ce soit à Bruxelles ou en Belgique, pour permettre vraiment aux gens de pouvoir enterrer leurs proches près de chez eux, pour pouvoir faire leur deuil et continuer à aller les voir.
Et vous pouvez vous recueillir sur la tombe de votre père, du coup, à Bruxelles?
Moi, je peux me recueillir sur la tombe de mon père à Bruxelles. Par contre, ma mère, elle est enterrée au Maroc. J'ai beaucoup de mal. Je la vois moins souvent, donc je la vois une fois par an quand je vais au Maroc, si j'y vais. Et donc, je vois vraiment la différence que c'est.
Qu'on vient de me dire que c'est culturel, le fait qu'on ne respecte pas les règles, ça, c'est un problème pour moi.
Allez, on va parler un peu de choses positives. On va retourner dans nos espoirs printaniers, les grands projets, les nouvelles recrues que représente justement cette saison du printemps. On va parler de vos projets. Molenbeek s'exporte un peu partout en Europe, jusqu'en Italie. Pourquoi ce modèle, selon vous, est devenu bankable et cartonne à ce moment-là?
Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a les mêmes problématiques partout dans le monde. On a un manque d'accessibilité aux technologies et on a tout un nombre de jeunes qui sont totalement décrochés de l'école. Et le système Molenbeek, la pédagogie Molenbeek leur permet vraiment d'amener ces jeunes-là vers les technologies. Et ça, c'est vraiment un projet win-win pour tout le monde.
Vous dites ceci, hein, quand les jeunes ont tout raté, s'ils ne font plus rien, à un moment donné, ils ont peur de l'échec, de se prendre une nouvelle fois le mur, tout simplement. Et alors, ils ont besoin d'un espace safe où ils peuvent se planter. C'est juste ça, en fait. C'est de l'écoute, Molenbeek, avant tout.
C'est de l'écoute. C'est une pédagogie qui est mise en place où on leur explique clairement qu'un enfant, pour apprendre à marcher, ben, il apprend à tomber. Et c'est OK. Et on ne va pas les juger pour ça. Et c'est très important qu'on ne les juge pas, qu'il n'y ait pas de test pour faire en sorte de mettre les mettre sur une échelle. Et donc, ça, c'est important de pouvoir... qu'ils se sentent vraiment dans un espace où ils peuvent rater avec le sourire et qu'ils apprennent et continuent à apprendre.
Le patron de Google a été séduit, Sundar Pichai, est venu plusieurs fois à Molenbeek, en tout cas il y a un an et demi, je crois, pour à nouveau, avec un nouveau chèque d'ailleurs, c'était le deuxième. Donc vous recevez de l'argent de Google, vous n'avez pas peur d'être à la botte, justement, de ce géant-là, d'être le bon alibi?
Non, parce qu'on a des conditions claires, hein, pour recevoir cet argent-là. C'est une totale indépendance aussi. Ils ne nous donnent pas de l'argent sans... ils demandent un retour. Le retour, il est clair. C'est par rapport aux formés. Ils appellent ça... On a deux types de retours. Donc, on a les gens qu'on sensibilise et puis on a les gens auxquels on change leur vie. Ils appellent ça comme ça. Auxquels on impacte leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un boulanger qui devient développeur ou un plombier qui devient développeur. Et donc, ils veulent des chiffres à ce niveau-là. Mais pour le reste, comment on le fait? Ça, on a une totale indépendance.
La base de Molenbeek, c'était rendre l'informatique accessible à tous. Est-ce que c'est ça encore le défi, ou c'est pas surtout trouver de l'argent pour après concrétiser ses rêves?
Nos défis évoluent. Maintenant, je travaille sur un projet qui est de rendre les finances, les levées de fonds accessibles à tous. Et c'est encore un vrai challenge. Il y a certains jeunes qui n'ont pas les 3F, donc les family, friends and fools. Donc la famille, les amis et les fous qui sont prêts à investir dans leur projet pour avoir, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros.
Pour démarrer l'histoire.
Pour démarrer leur histoire. Ils n'ont pas ça. Donc à partir du moment où ils n'ont pas ça, comment on fait pour démarrer une histoire? Et ça, on est en train de travailler sur un fonds pour pouvoir rendre accessibles les levées de fonds. Et ça, c'est super important.
À Bruxelles, un jeune actif sur 4 est au chômage. Hein, chômage des jeunes de moins de 25 ans qui tourne autour des 25%. Et le nombre de jeunes demandeurs d'emploi a encore augmenté durant la pandémie, plus 10%. Vous les côtoyez, vous les accueillez parfois aussi à Molenbeek. Ce sont les sacrifiés de cette crise Covid, selon vous?
Ce sont les sacrifiés du système, ça c'est clair. Par contre, pour nous, ça reste des opportunités pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont une réelle valeur ajoutée.
Vous voyez vraiment les choses bouger depuis votre époque, quand vous étiez jeune comme ça, et depuis l'évolution de Molenbeek. Est-ce qu'il y a le sentiment que les choses changent ou pas ? Les chiffres ne changent pas.
Les choses changent. Les choses changent. Là où j'étais la seule personne d'origine africaine dans un service IT de 200 personnes, maintenant il y en a beaucoup plus. Là au départ, quand je disais je vais prendre des jeunes de quartier qui ont quitté l'école pour en faire des ingénieurs tech, on me riait au nez. Là maintenant, on voit que c'est une évidence. Donc oui, les choses changent. Là où au départ, j'avais du mal à avoir un petit sponsor, que ce soit un petit snack ou un petit commerce de quartier. Maintenant, on a Google, Proximus, donc oui, les choses changent.
Et on reste justement dans ces espoirs, cette question de la diversité, du dialogue aussi. Ça a parfois été un peu compliqué ces dernières semaines, notamment beaucoup de questions autour du voile. On a vu aussi nos diables rouges poser le genou pour dénoncer le racisme. Ça, on met dans les promesses ou on met dans les échecs, du coup, Ibrahim Ouassari ?
Pour moi, j'ai envie de les voir comme les promesses, parce que moi, la promesse que je vois dedans, c'est la nouvelle génération de jeunes belges qui vont à l'école, qui côtoient des personnes de toute origine, qui côtoient des jeunes femmes voilées ou pas. Et cette promesse-là, je la vois arriver dans 20 ans, où il y aura plein de jeunes qui n'ont pas... Ils sont plus dans... Les jeunes, maintenant, actuellement, on peut les appeler génération X, Y, Z, comme vous voulez, mais ils ne sont plus dans ces thématiques-là, dans ces débats-là. Et ils ne voient plus le foulard sur la tête d'une fille ou la couleur de peau d'un autre jeune.
Vous dites que la nouvelle génération a dépassé ces clivages. Revenons sur cette question du voile. Vous êtes clairement positionné sur les réseaux sociaux, notamment en attaquant d'ailleurs l'EMR, Jean-Louis Boucher et sa position. C'était là pour marquer un peu justement votre indépendance. Politique, pourquoi il faut à un moment donné aussi dénoncer ça de manière si ferme ?
Non, mais pour être totalement transparent, moi, il y a des débats où je ne peux pas ne pas prendre position parce que je travaille avec des personnes qui portent le voile ou pas. Et moi, je ne suis pas pro-voile. Certaines personnes pensent que je suis pro-voile. Je ne suis pas pro-voile, je suis pro-choix. Donc, moi, par exemple, si on prend l'exemple de Ihsan Awash, qui a été nommé par...
Commissaire du gouvernement, nommé par Ecolo.
Exactement.
À l'Institut pour l'égalité.
Je la soutiens. Et je la soutiendrai, c'est le retire son voile, mais à 100% aussi. Donc moi, je soutiendrai Ihsan Awash en tant que personne, et pas par rapport à ce qu'elle a sur la tête. Et ça, c'est super important qu'on le comprenne, parce que je soutiendrai n'importe quelle personne à partir du moment qu'elle a pris une décision en son âme et conscience. Point. Mais peu importe que ce soit voile ou pas voile. Et moi, je pense qu'il faut passer outre ces débats, parce qu'on est encore à la France des années 80, avec Touche pas mon pote, on est très loin là, et on est en 2021.
Moi, il y a des débats où je ne peux pas ne pas prendre position.
Alors, on va terminer par l'hiver. Non, pas qu'on veut terminer sur une note négative, mais on continue notre quatrième saison. L'hiver, ça résonne avec la solitude, les échecs, les lenteurs. Vous avez évoqué à un moment donné votre parcours scolaire. Vous êtes arrêté en première secondaire. Avec le recul, vous vous dites justement, c'est vraiment... l'échec, une lenteur, une solitude, ou au contraire, ça a été la chance de ma vie ?
Avec le recul, cette période-là, je l'ai vraiment vécue comme tout seul,
comme
très
la solitude,
froid,
comme l'hiver,
la solitude.
Voilà.
Ça a été très dur parce que je suis l'avant-dernier d'une famille de 8. J'ai un frère qui est juste, 2 frères ingénieurs, une sœur licenciée de l'Université de Cologne. Donc j'ai vraiment des rôles modèles, j'ai des succès. Et donc je suis l'avant-dernier, tout cela, ils étaient au-dessus de moi. J'étais une déception pour mes parents, j'étais une déception pour ma mère, j'étais une déception pour mon père. Tout ça, je l'ai vécu seul. Ça, c'était vraiment pas agréable. Jamais, 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 on m'a donné d'autres perspectives que ça, où on m'a dit, ben, toi, tu es un peu différent. Par contre, les professeurs, on voyait clairement que j'avais du potentiel, mais que je travaillais pas, en fait. Je travaillais pas, je ne m'efforçais pas à travailler. Et donc, on n'a pas réussi à m'orienter convenablement à ce moment-là.
Et quand vous avez créé Molenbeek sur les murs, vous avez tagué vos héros, les mangas, les super-héros. C'est quoi le super-héros en ce moment dans la société d'Ibrahim Ouassari ?
Pour moi, c'est les gens qui arrivent à tout remettre en question du jour au lendemain et à changer de vie. Moi, j'ai connu un gars qui était chauffeur de bus. Il a repris ses études, il est devenu avocat. Je connais un ami à moi, Emmanuel, qui travaille avec moi dans l'informatique. Il est devenu médecin. Je vois plein de jeunes qui sont plombiers, qui deviennent développeurs. Moi, c'est ceux-là, les héros de la vie. C'est ceux qui lâchent pas. C'est ceux qui continuent à y croire et à croire en eux-mêmes déjà et à croire au potentiel qu'ils ont. Ça, pour moi, il y a plein d'héros qui il y en a plein à Bruxelles, il n'y en a pas en Belgique.
Ouais. Et la crise, la pandémie a bouleversé justement certains parcours. Juste pour terminer, quelle est la couleur selon vous de la prochaine saison qui s'annonce? Comment vous voyez cet après-Covid?
La prochaine saison, vraiment, ça dépend, elle dépend énormément des politiques, mais aussi des citoyens, des décisions qui vont être prises, des investissements qui vont être faits.
Repartir comme avant? Le monde après-Covid va vraiment être un autre monde?
J'ose espérer que les gens ont pris conscience de certaines réalités de notre système, de comment ça fonctionne, des investissements qu'il faut faire pour pouvoir pousser les gens vers le haut et pousser notre pays vers le haut. Et j'ai vraiment très peur quand on voit des décisions comme des échafaudages à démonter, alors que
il y a justice de Bruxelles, c'est ça.
Voilà, et alors qu'il y a d'autres urgences, mais vraiment des urgences où il y a des jeunes qui se rentrent en formation pendant 8 mois, et pendant 8 mois ils ont aucune indemnité chômage, ils ont juste 1 euro de l'heure ou 2 euros de l'heure, ça dépend du contrat qu'ils ont. Comment on fait pour tenir 8 mois avec 2 euros de l'heure alors qu'on se forme pour pouvoir payer des impôts par la suite, trouver un boulot et payer des impôts et des taxes? Comment on fait ça? Et donc là, ça c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plein de jeunes qui quittent parfois les formations parce qu'il y a des huissiers qui viennent toquer à la porte parce qu'ils n'ont pas payé un abonnement de gym.
Et la question de la formation, c'est au cœur notamment du plan de relance. Donc en mode défi, en mode espoir quand même un peu la prochaine saison, si on
J'espère.
Comprend. Merci Brahim Moissari pour cet entretien.
Merci en Thomas.
Et bel été.
À vous aussi.
C'était donc le 2e épisode des 4 saisons en mode été. Thomas, la semaine prochaine, qui est-ce que tu reçois?
Alors c'est l'histoire d'un coprésident qui se montre un peu plus discret qu'avant. Il a dirigé les Verts, c'est Jean-Michel Javot qui est bourgmestre, qui est un peu en dehors des caméras. Et l'idée c'était de l'entendre justement sur toute cette gestion de crise. Et puis surtout, un peu aussi de parler de son avenir. Est-ce que ça lui a ouvert les yeux sur une autre réalité, sur son avenir politique, tout ça?
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.